ont donné une autre face aux empires. Ceux qui brillaient se sont tout à coup obscurcis, et d'autres, sortant de leur obscurité, sont venus figurer à leur tour sur la scène du monde. Si du nord au midi, un nouveau schisme a déchiré l'Église, un commerce immense a jeté de nouveaux liens parmi les hommes. C'est avec les sujets de l'Afrique que nous cultivons l'Amérique, et c'est avec les richesses de l'Amérique que nous trafiquons en Asie. L'univers n'offrit jamais un tel spectacle. L'Europe, surtout, est parvenue à un si haut degré de puissance que l'histoire n'a rien à lui comparer. Le nombre des capitales, la fréquence et la célérité des expéditions, les communications publiques et particulières, en ont fait une immense république et l'ont forcée à se décider sur le choix d'une langue. Ce choix ne pouvait tomber sur l'allemand, car vers la fin du XVe siècle et dans tout le cours du XVIe, cette langue n'offrait pas un seul monument. Négligée par le peuple qui la parlait, elle cédait toujours le pas à la langue latine. Comment donc faire adopter aux autres ce qu'on ose adopter soi-même? C'est des Allemands que l'Europe a pris à négliger la langue allemande. Observons aussi que l'Empire n'a pas joué le rôle auquel son étendue et sa population l'appelaient naturellement. Ce vaste corps n'eut jamais un chef qui lui fut proportionné. Et dans tous les temps, cette ombre du trône des Césars qu'on affectait de montrer aux nations ne fut en effet qu'une ombre. Or, on ne saurait croire combien une langue empreinte d'éclat du prince et du peuple qui la parle. Et lorsqu'enfin la maison d'Autriche, fière de toutes ses couronnes, a pu faire craindre à l'Europe une monarchie universelle, la politique s'est encore opposée à la fortune de la langue tudesque. Charles Quint, plus attaché à son sceptre héréditaire qu'à un trône, où son fils ne pouvait monter, fit rejaillir l'éclat des Césars sur la nation espagnole. À tant d'obstacles tirés de la situation de l'Empire, on peut en ajouter d'autres, fondés sur la nature même de la langue allemande. Elle est trop riche et trop dure à la fois. N'ayant aucun rapport avec les langues anciennes, elle fut, pour l'Europe, une langue mère, et son abondance effraya des têtes déjà fatiguées de l'étude du latin et du grec. En effet, un Allemand qui apprend la langue française ne fait, pour ainsi dire, qu'y descendre, conduit par la langue latine. Mais rien ne peut nous faire remonter du français à l'allemand. Il aurait fallu se créer pour lui une nouvelle mémoire, et sa littérature, il y a un siècle, ne valait pas un tel effort. D'ailleurs, sa prononciation gutturale choqua trop l'oreille des peuples du Midi, et les imprimeurs allemands, fidèles à l'écriture gothique, rebutèrent des yeux accoutumés au caractère romain. On peut donc établir, pour règle générale, que si l'homme du Nord est appelé à l'étude des langues méridionales, il faut de longues guerres dans l'Empire pour faire surmonter aux peuples du Midi leur répugnance pour les langues septentrionales. Le genre humain est comme un fleuve qui coule du Nord au Midi. Rien ne peut le faire rebrousser contre sa source. Et voilà pourquoi l'universalité de la langue française est moins vraie pour l'Espagne et pour l'Italie que pour le reste du monde. Ajoutez que l'Allemagne a presque autant de dialectes que de capitales, ce qui fait que ses écrivains s'accusent réciproquement de batavinité. On dit, il est vrai, que les plus distingués d'entre eux ont fini par s'accorder sur un choix de mots et de tournures qui met déjà leur langage à l'abri de cette accusation, mais qui le met aussi hors de la portée du peuple dans toute la Germanie. Il reste à savoir jusqu'à quel point la révolution qui s'opère aujourd'hui dans la littérature des Germains influera sur la réputation de leur langue. On peut seulement présumer que cette révolution s'est faite un peu tard et que leurs écrivains ont repris les choses de trop haut. Les poèmes tirés de la Bible, où tout respire un air patriarcal et qui annoncent des mœurs admirables, n'auront de charme que pour une nation simple et sédentaire, presque sans port et sans commerce, et qui ne sera peut-être jamais réunie sous un même chef. L'Allemagne offrira longtemps le spectacle d'un peuple antique et modeste, gouverné par une foule de princes, amoureux des modes et du langage d'une nation attrayante et polie. D'où il suit que l'accueil extraordinaire que ces princes et leurs académies ont fait à un idiome étranger est un obstacle de plus qu'ils opposent à leur langue, et comme une exclusion qu'ils lui donnent. La monarchie espagnole pouvait, ce semble, fixer le choix de l'Europe. Toute brillance de l'or de l'Amérique, puissante dans l'Empire, maîtresse des Pays-Bas et d'une partie de l'Italie, les malheurs de François Ier lui donnaient un nouveau lustre, et ses espérances s'accroissaient encore des troubles de la France et du mariage de Philippe II avec la reine d'Angleterre. Tant de grandeur ne fut qu'un éclair. Charles Quint ne put laisser à son fils la couronne impériale.